espace 2.
Bonjour, vous écoutez Musique en mémoire et aujourd'hui encore, nous retournons rencontrer Jean-Sébastien Bach à Gruyère. Soyez les bienvenus.
Musique en mémoire.
Good. I think shrink it though. Put it back in the sunbed. This is sounding better already. It's because it's drier.
Bonjour David Mestri.
Bonjour Jean-Luc Ridère.
Des moments à l'atmosphère toujours très particulière, des moments passés dans un atelier de lutherie, David.
Et le bois qui résonne déjà de cette viole, petite viole qui est encore à percussion, elle sonnera à la fin de cette semaine du 10e atelier de musique ancienne de Gruyère, grâce à David Van Edwards, grâce aussi à tous les stagiaires qui ont participé à ce stage sous la direction bicéphale de David Van Edwards et Philippe Motério, l'instigateur de ce festival. Oui. Je peux les citer peut-être aujourd'hui. Ils sont sur l'étiquette de la viole de gambe terminée maintenant. Jean-David Blanc, Serge Menoux, Jérôme Brohr, Thomas Sidler, Laurent Cartier et Urs Leo Gantenbein.
Oui, un dessus de viole dont on va continuer de suivre la fabrication, a sorti des réflexions de son luthier, David Van Edwards.
Le maître du stage, qui est aussi président d'ailleurs de la Lute Society. Vous savez peut-être, Jean-Luc, qu'il y a des sociétés de lutte, l'ALS, American Lute Society, la société de lutte française, mais la seule qui s'appelle simplement Lute Society. C'est en Grande-Bretagne et c'est un luthier qui en est le président.
So two different notes. Mm-hmm. They correspond to
deux notes différentes. Elles correspondent à deux manières de vibrer différentes. Et ils devraient résonner à la quinte ou à l'octave.
Et vous faites encore des réglages d'après la sonorité que vous entendez maintenant, David Van Edwards?
Yes, we've
l'épaisseur.
Yes, exactly. Essentially, it's the same thickness all over.
Oui, essentiellement, c'est la même chose sur toute la surface. L'épaisseur est d'environ 2,5 mm. C'est tout à fait normal sur une viole d'avoir la même épaisseur sur toute la table. Il y a deux écoles, une pour laquelle l'épaisseur est plus grande au milieu. Et celle-ci semble être de l'autre école. Nous avons les mesures de l'original, elles sont très irrégulières, mais essentiellement, c'est la même épaisseur. Voici la barre d'harmonie. Il n'y en a qu'une qui opère la connexion entre ces deux parties, le chevalet. L'un des pieds du chevalet est posé sur la barre, et l'autre est plus ou moins sur l'âme. Et ça produit une sorte de point fixe, stable, et le chevalet fonctionne. Lorsque les cordes font vibrer le chevalet, l'autre pied du chevalet fait bouger la barre de haut en bas, et ça transmet la vibration ici, un peu comme deux cônes de haut-parleur connectés par une bride.
Les choses n'ont pas pris de retard, tout semble bon pour terminer
un tout
dimanche.
Petit peu, mais pas énormément, parce que là on a dû refaire des opérations qui sont en train de sécher, et pendant que c'est en train de sécher, on ne peut rien faire dessus.
Refaire des opérations, c'est-à-dire que le collage a dû être fait
on
deuxième
a dû faire un deuxième collage, là, oui, effectivement.
Ça s'était décollé?
Non, mais c'est pire, c'était très bien collé, mais du mauvais côté. Bon. Visiblement, personne n'est infaillible, spécialement nous.
Et vous avez fait des ouïes alors qu'ils sont différentes de l'original, qui avait une petite rosace?
La rosace, elle n'est pas ici, non. Ça, c'est différent de l'original. Alors, on ne la fait pas. Ah, j'entends. Jérôme, notre sculpteur, il ferait ça sans trop de problèmes, mais ça prendrait, nous, beaucoup de temps, je pense. Alors là, on a dû justement enlever, finalement, l'ancienne, carrément découpée, repolir et puis faire une nouvelle pour la mettre là. Et puis ça, c'est ce qu'on a fait ce matin. Jusqu'à midi, on va probablement me laisser sécher.
Avec les serre-joints.
Oui, avec les serre-joints. Et puis, soit cet après-midi, soit à la fin de l'après-midi, on va coller la table. Et là, l'instrument, il aura l'air presque.
Il devrait être jouable dimanche, ça, c'est l'idée?
c'est pas du tout impossible, parce que
conférence, je crois, de presse.
Ce qui reste à faire après, essentiellement, c'est faut coller la touche, mais la touche, coller la touche, ça c'est un travail uniquement relativement court. Et après, il faut faire les filets. Mais s'il n'y a pas les filets, on peut quand même le jouer. Mmh. Les instruments primitifs n'avaient pas de filet, ou bien n'avaient qu'un seul filet. Alors ici, normalement, d'après l'origine, il y a deux filets sur la table et deux filets sous le fond. Et il faut d'abord faire les filets sur la table. Ça va être le travail de demain matin, certainement. Peut-être demain toute la journée, je ne sais pas à quelle vitesse on avance là. Et puis on fera les filets du fond jusqu'où on peut. Et si on n'arrive pas jusqu'où, j'imagine que David va prendre l'instrument avec lui pour le terminer et puis le renvoyer après.
Parce qu'un instrument comme ça, il peut être joué tout de suite dès qu'il est terminé. Il faut le laisser rassir un petit peu.
Non, moi, à mon avis et mon expérience, il faudrait le jouer assez rapidement et très régulièrement. Parce que pendant les premiers mois, il change énormément de sonorité. Tout se met en place et tout se dégage et le son aussi se dégage. Alors les premiers mois, le son, il change énormément sur un tel instrument. Après, ça commence à être de plus en plus stable avec l'âge.
Vous pouvez avec l'eau.
Ah, enlever la colle.
Ah oui. My French is terrible.
Là, sur l'église de la viole, vous avez entouré au crayon un petit point qui est une sorte de marque.
Oui, c'est une petite marque qui s'est faite, on ne sait pas vraiment à quel moment, mais avant le montage, oui.
C'était tout au début.
Et comment ça va être? Ça doit être réparé, ça, ou ça va rester comme ça?
Alors, on va essayer de le réparer. Il paraît qu'il y a une technique à l'eau chaude qui va redéployer les fibres. Ça fait gonfler les fibres, ouais, et puis ça pourrait revenir en place comme par magie, comme quand on repasse une chemise.
Retendre
les fibres et peut-être ça disparaîtra.
Parce que c'est mauvais, ça, pour la sonorité de l'instrument?
Non, je pense pas pour la sonorité, mais pour l'aspect visuel. C'est quand même un point d'un millimètre, c'est rond et qu'on verra, je pense, dans le vernis, ouais. Et peut-être qu'on peut même le racler sur une petite épaisseur pour faire disparaître s'il reste quelque chose. Mais voilà, on a la démonstration actuellement avec de l'eau chaude. Puis on va voir.
And here is also glue.
Colle qui sort du pot à colle. L'eau qui est chaude qui sort du pot à colle.
Qui fume.
Qui fume, oui, elle est bien chaude.
Pareil de détail.
Ah, on dirait que ça remonte déjà un petit peu, ça disparaît dans gentiment. C'est les secrets du maître. Magique. Ça fume.
C'est l'épaisseur là du côté de l'éclisse de la viole, elle est de combien à peu près?
Je sais pas exactement. 2 millimètres et demi peut-être, 3 millimètres. Si on a rangé déjà l'outil pour mesurer, mais quelque chose comme 2 millimètres.
Ah oui, effectivement, l'eau chaude fait gonfler le bois.
Oui, ça a presque disparu.
Elle avait l'air d'un coup, elle a remonté.
Une petite ombre maintenant. Ça fait aussi remonter les fibres du bois
autour,
qui se retendent après qu'on les ait...
C'était un peu plus rugueux.
Oui, mais c'est voulu. Après, on va peut-être passer tout l'instrument pour le refaire sortir les fibres. Et
une fois reponcer.
Voilà, une fois de racler ou poncer pour les enlever.
Oh, yes.
C'est le tournage des chevilles. Mais c'est pas les chevilles pour la viole que vous avez vue, ça c'est une autre viole que je suis en train de fabriquer à la maison.
Une plus grande, j'imagine.
C'est une basse, oui. Et je profite du tour pour forcer ces chevilles.
C'est une grosse pièce, effectivement, ça.
Après, ça vient scier.
Mm-hmm. Après, la sphère devient coupée sur ses quatre faces.
Dans l'oblique, en faisant attention à la direction des veines. Hein. Mm-hmm. Les veines soient dans le sens de la cheville et pas dans le sens inverse. Mm-hmm. Ça, c'est du buis.
Un bois très dur pour ces
très
pièces. Dur.
Très agréable à tourner. Ça, c'est très agréable à faire. Spectaculaire parce que ça donne vite des belles pièces, mais c'est très facile.
Et vous êtes un des stagiaires cette année alors?
C'est ça.
Votre nom?
Oui, Serge Menlou.
Mais vous êtes déjà connaisseur de ce métier du bois, j'imagine.
Amateur, oui, c'est mon troisième stage.
Oui.
Oui. J'avais fait le violon baroque il y a 2 ans, l'harpe l'année passée. Et je suis de retour pour la viole de gambe. Ça m'aide beaucoup pour ce que je fais à la maison, même si c'est un dessus de viol, la technique est la même. C'est
donc vous êtes un luthier du dimanche un peu?
Du samedi soir.
Oui, oui.
C'est vraiment un métier. Il y a des tas de choses que je me rends compte qu'on fait faux. Donc, on perd beaucoup de temps. Et pour ça, la possibilité de côtoyer un maître, c'est génial. Parce que ça paraît tellement simple quand on les voit faire.
Et vous faites une viole de gambe pour vous-même?
Oui, c'est ça. Oui, oui. C'est un coup de foudre que j'ai eu il y a 2 ans, dans un stage ici. Celle qui est exposée en bas, là. Je me suis dit, ça, je vais faire. Et voilà, depuis tout petit, moi je rêvais, j'avais entendu une fois quelqu'un qui m'avait parlé d'un ami à lui qui avait fabriqué un violon sans être luthier. Et pour moi, ça paraissait impossible, quelque chose absolument impossible à atteindre. Et c'est un petit défi que je me lance. Je pense pas que je serai luthier un jour, mais...
Mais violiste peut-être alors?
Peut-être, peut-être.
C'est le bois dont on fait les flûtes aussi, avec un tour, j'imagine. Le buis, flûte à bec.
Oui. Ça, c'est un buis que Philippe a ramené d'Espagne. Il allait faire des achats en gros là-bas, et il a ramené une grande quantité de tiges de buis secs. Il faut une dizaine d'années pour qu'il sèche le buis. Ça sert à rien de travailler avant, parce qu'il bouge. Et c'est un cadeau qu'il m'a fait.
Ça, c'est la rosace de l'autre.
Yes, of the...
Avec une forme ovale, c'est étonnant.
Oui, la rosace originale de la viole que nous reproduisons est plutôt ronde, pas très jolie. Mais c'est clairement la même que sur ce dessin, mais nous avons décidé de ne pas la copier.
On voit plutôt des rosaces circulaires que ovales.
Elle est circulaire dans l'original et assez maladroite, trop grande pour l'instrument. Je ne sais pas si elle est même originale. Elle ne ressemble pas à Henry Jay, qui utilise d'habitude des rosaces ovales, comme sur la photo de la basse de viol. Très belle, très délicate.
La grandeur de la rosace et sa forme sont importantes pour la sonorité de l'instrument, David Van Edwards.
En réalité, personne ne sait. La plupart des viols n'ont pas de rosace, mais Jay en mettait, et si nous en faisons une circulaire, ça la rend trop large pour utiliser une barre d'harmonie, donc ça la rend un petit peu douteuse. Et j'ai décidé de laisser tomber la rosace.
Alors, il a choisi maintenant les pièces ici.
D'accord, donc la dernière bande.
Oui, celle-là, elle est collée, et puis celle-là n'est pas encore collée, mais on va commencer par préparer celle-là.
Il y a une entaille là qui sera à l'endroit
où... Ça vient ici, dans l'échancrure de la table, oui. Parce que ça doit juste remplir encore cette surface-là. Oui. Mais là, je ne vais pas encore enlever parce que cette colloie, elle est bien dure, mais...
Laisser
par la prudence, il faut voir ça bouge trop. Alors ici, c'est clair, il y a...
Elle n'est pas pressée, elle était serrée tout à l'heure.
Eux, ils les serrent avec... C'est avec les vis. Comme ici aussi, ça. Je ne sais pas, il l'a collé ce matin, je crois, ce matin en arrivant, quasiment. Alors on va le laisser jusqu'après le dîner. Après, on peut ajuster ça. Mais celle-là, il faudra aussi commencer par les plier, si c'est pas fait.
Et là, elle est encore beaucoup plus épaisse que le résultat final, je pense.
Oui, oui. Là, il y a, je crois qu'il y a 5 mm. L'épaisseur finale est entre 2,5 et 3,5. Mais ça, justement, une fois que c'est bien collé, c'est un seul bout de bois dont on arrondit l'extérieur et l'intérieur pour parfaitement faire l'épaisseur et la forme qu'on veut. Là, on est beaucoup plus proche du violon une fois que tout est encollé. Le violon, on n'a qu'une seule pièce, mais on doit donner la forme extérieure et intérieure. Alors, il y a beaucoup moins de chutes ici. D'ailleurs, David a raconté qu'en Angleterre, le sapin est beaucoup plus rare qu'en Suisse, par exemple, ou en Allemagne. Alors, on fait 4 instruments de cette façon-là, comparé à un seul instrument de la façon du violon. Ça, je ne le savais pas avant non plus, parce que pour nous, le sapin, c'est vraiment le bois standard qu'on utilise tout le temps. Alors, on va certainement commencer par plier un peu ça.
Et vous continuez à fabriquer des instruments, David Van Edwards?
Yes. I have for the foreseeable future.
Vous ne prévoyez pas de vous arrêter un jour, alors?
Non.
Pour ce que je peux prévoir de l'avenir, je continue. J'ai 4 ou 5 ans de commandes en attente, donc je dois au moins vivre jusque-là.
Vous avez toujours le même plaisir à les faire.
Yes.
C'est quoi comme sorte d'instrument? C'est surtout des luths?
J'ai beaucoup de commandes de théorbes et quelques luths de la Renaissance. Mais j'ai fabriqué des théorbes qu'on peut démonter pour les prendre en avion.
C'est nouveau, ça, ou bien c'était...
Yes, it's a new idea. It's a new problem to have to go on a cheap airline.
C'est un problème récent des compagnies aériennes bon marché qui rapprochent de plus en plus les sièges et qui deviennent de plus en plus sévères avec leurs restrictions sur la taille des objets qu'on peut prendre à bord. Et donc, je l'ai fabriqué de sorte qu'on puisse séparer le manche, mais sans détacher les cordes, pour qu'on puisse l'assembler et l'accorder en une demi-heure, prêt pour un concert. C'est assez pratique. J'en ai plusieurs à fabriquer.
Et la lutherie médiévale, la dernière fois que je vous ai interviewé, vous fabriquiez une guitare, notamment ici. C'est un sujet qui vous passionne. Que vous avez des commandes pour ce genre d'instrument?
Oui,
je dois aussi fabriquer des luths médiévaux, mais pour l'instant, personne ne m'a commandé une guitare. On en a fait une lors d'un atelier semblable, dans mon propre atelier, et on l'a offerte à la société de luth anglaise comme instrument de location. C'était très intéressant et j'aimerais bien en refaire, mais pour l'instant, je n'ai pas le temps. Mais le luth médiéval est très intéressant, particulièrement parce qu'on n'en sait rien. On n'a que l'iconographie comme base et c'est très intéressant d'essayer de comprendre comme ils étaient.
Vous présidez, David Van Edwards, c'est bien ça, la société de luth anglaise?
Yes.
C'est du travail alors aussi de scientifique?
I was voted to be president earlier this year, so it's a great honor.
Oui, on m'a élu président en début d'année, c'est un grand honneur. Mais je ne crois pas que ce soit à cause de mon travail scientifique. J'ai simplement envie de continuer à aider la société de luth parce qu'ils ont aidé beaucoup de musiciens. Ils encouragent à jouer du luth, c'est bien.
Il y a une partie universitaire de votre travail par rapport à la pratique aussi ou...
Non, not at all. I've worked in my workshop on my own. In fact, one of the people who came to study...
Non, pas du tout. Je travaille tout seul dans mon atelier. Une des personnes qui est venue étudier avec moi était Iris Bremo, qui travaille maintenant dans une université ou un institut à Winterthur, dans le domaine de la recherche, de la résonance du bois. Elle recherche l'introduction de champignons dans le bois pour en améliorer la qualité de résonance, mais elle va partir pour aller travailler à l'université de Montpellier.
But she is leaving there now and going to work in university in Montpellier. And so I sort of feel that part of what I was training her.
J'ai l'impression que ce que je lui ai appris continue à vivre dans le milieu universitaire et j'en suis très fier.
And I'm working at the moment on a lot of iconography, things which I think are interesting.
Et en ce moment, je travaille beaucoup sur l'iconographie, ce qui est particulièrement intéressant pour l'époque médiévale, mais aussi à n'importe quelle période. On a beaucoup à apprendre des peintures. Et je pense qu'il y a beaucoup à faire dans le domaine de la numérisation. Il faut numériser autant d'images de lutte que possible. Et on espère produire un catalogue digital de lutte pour la société de lutte, pour que d'autres puissent y avoir accès, pour rechercher certaines choses en particulier. Je pense que ça aiderait à découvrir quels étaient les instruments les plus courants, comment ils étaient cordés, et d'avoir plus de précision sur l'histoire des instruments. Et je pense que si on a accès à différentes informations cachées dans des peintures différentes, ça améliorera nos connaissances. C'est mon travail en ce moment.
And that's what I'm working on at the moment.
À propos d'iconographie, David Van Edwards, on s'imagine qu'il y a deux sortes de peintres, et ceux qui font les dessins très précis qui peuvent servir à des luthiers, yes, et ceux qui font des choses très imaginaires avec des grandes disproportions.
Yes, that's always a problem, and you have to be careful about what you're looking at. But fortunately, for a particular period, the precision was the aim of the artist.
Oui, c'est toujours un problème et on doit être très attentif à ce qu'on regarde. À une certaine période, la précision était le but de l'artiste et pour une partie de l'art italien et plus tard l'art flamand, les artistes s'intéressaient beaucoup à la précision et la réalité. Et je trouve qu'en grande partie, on peut faire confiance à ce qu'on voit. Mais comme vous dites, il y a aussi beaucoup d'imaginaire au Moyen-Âge. On ne sait jamais trop si les anges jouaient dans des positions réelles ou s'ils étaient angéliques.
So whether they were angelic. In fact, I think there's quite an interesting Dürer drawing where he.
En fait, il y a un dessin intéressant de Dürer. Il dessinait depuis longtemps des anges jouant debout, tenant l'instrument sans sangle, avec plectre. Et il a fait un long voyage en Allemagne où il a vu les nouvelles fabrications d'instruments et les nouvelles façons de jouer. C'était impossible de jouer debout. Et il a fait cette gravure à la pointe d'argent où l'ange est totalement réaliste.
An angel, and the angel is absolutely realistic. He could have competed in the Olympics. You know,
il aurait pu participer aux Jeux Olympiques, bien musclé, avec des grandes ailes, très naturaliste. Et il joue à la façon moderne, mais debout, alors que ce n'est pas possible. Donc, il a amené une immense planche de bois de nulle part pour y poser son instrument. Je crois que c'est une blague sur la façon moderne de jouer, l'instrument moderne. Et pourtant, on ne pouvait pas être un ange. C'est une blague iconographique. Et je crois que Dürer en a fait beaucoup.
You couldn't be an angel. You know, it was an iconographic joke. And I think Dürer often made jokes like that. There's another nice Dürer one where there's an angel playing. Standing up, it's a small little putti playing with a lute, and he's resting.
Il y a un autre beau Dürer avec un ange qui joue debout, un petit puto avec un lute. Le lute repose sur son genou et son pied repose sur un escargot. C'est un dessin pour le livre de prière de l'empereur Maximilien. Il y avait beaucoup de retard avec ce livre de prière et Durer n'a jamais été payé. C'était peut-être un commentaire sur la lenteur de la procédure. À la même époque, à Nuremberg, il y avait une tombe de Saint Sébald qui repose sur 12 escargots qui ressemblent comme deux gouttes d'eau à l'escargot de Durer. Là aussi, il y avait beaucoup de retard et je pense que tout le monde à Nuremberg aura su que c'était une référence à cette tombe qui était très célèbre et qui est toujours là.
Et David Van Edwards, j'ai en tête aussi une question d'iconographie qui est un portrait, je crois, de Charles Mouton ou je ne sais plus quel luthiste, où l'on voit la couleur d'une des cordes qui peut donner des indications sur le métal utilisé. Il y a du rouge dans une des cordes du luth.
Yes, that's true. Yes, quite a lot of paintings show a red color to the cords, to the strings, and.
Oui, c'est vrai, tout à fait. Beaucoup de peintures montrent une couleur rouge pour les cordes. Il y a un problème avec les cordes en boyau. Faire les cordes épaisses suffisamment lourdes, les faire suffisamment minces pour qu'elles aient un bon son. Si vous avez une corde en boyau simple et que vous l'accordez à la note la plus grave d'un luth ou d'une viole, elle sonnera assez terne, car elle a une résistance interne importante à la vibration. Ça nous préoccupe depuis longtemps et on cherche une façon de rendre les cordes plus lourdes sans les rendre plus rigides. Les cordes modernes sont recouvertes de métal, mais ça n'a été inventé qu'en 1650, donc assez tard. Et même là, ça a été très peu utilisé apparemment. Ça n'apparaît vraiment qu'au XVIIIe siècle. C'est un gros problème. Et une des suggestions est que des sels métalliques aient pu être ajoutées pour alourdir le boyau afin de pouvoir l'affiner. Une des preuves est le nombre de cordes basses qui sont représentées en rouge.
Is the large number of bass strings that are shown to be red. And personally, I think it was because they were using mercury.
Personnellement, je pense que ça montre qu'ils utilisaient du mercure, car c'était très courant, très lourd, et on n'en connaissait pas les dangers. Mais maintenant, ce serait complètement illégal d'utiliser du mercure, surtout pour des musiciens qui lèchent leurs doigts, totalement dangereux.
One possibility is lead. Also, lead oxide is red.
Mais une autre possibilité serait le plomb. L'oxyde de plomb est rouge. C'est une autre possibilité qui aurait pu être utilisée, mais de nouveau, ce serait complètement illégal de nos jours. Il y a un fabricant de cordes italiennes, Mimmo Peruffo, qui fait des recherches sur l'ajout de cuivre, ce qui est légal au moins, mais moins lourd malheureusement. Ces cordes sont brunes. Moi, j'avoue que j'aimerais essayer le mercure, mais seulement en privé.
Only in private.
Des musiciens en répétition avant le concert final qui a eu lieu le dimanche 26 août avec des airs de Jean-Sébastien Bach, bien sûr, deux musiciens. Je reconnais à l'oreille Ager Anana et Alexis Kosenko.
Avec des instruments anciens qui sont notamment ce violoncelle à cinq cordes, violoncello piccolo, dont nous parlait hier le luthier Christian Rau, qui est l'instrument demandé par Bach pour accompagner quelques-unes de ses cantates. Et le flûtiste, c'est Alexis Kosenko. Les deux étaient en résidence avec l'Angeli de Genève de Stéphane MacLeod, qui donnait le concert final de ce 10e atelier de musique ancienne de Gruyère.
En résidence, c'est-à-dire ?
C'est-à-dire qu'ils étaient toute la semaine en préparation de ce concert-là et d'autres à l'Institut La Gruyère.
Alors, encore quelques instants de répétition à partager avant de les retrouver à votre micro, David Mestri.
Il y en a une forme au début que j'aime bien respecter. Après, elle, sera aussi, elle correspond aussi à l'articulation du texte. Mais quand je joue avec toi, je n'ai pas de liaison écrite, je fais par imitation. Je regarde.
Ok, d'accord. Alors, si on prenait ici.
Après moi, oui, d'accord. Peut-être ton do dièse peut quand même se diriger vers le ré.
Tout à fait.
Bien, c'est très...
Je commence avec vous, Agère.
Ah oui,
ça me fait plaisir de vous revoir. Là,
moi aussi.
Croisé, il y a deux ans.
Vous allez bien?
Ça va, oui, tout va très bien. Ça, c'est alors cet instrument à cinq cordes.
Exactement.
C'est étonnant de voir de près, effectivement, avec ces décorations de l'école alémanique.
Alémanique, tout à fait.
Regardez. Et puis, les cordes graves sont très étonnantes, hein, d'une épaisseur... c'est toujours aussi épais que ça, une corde d'or en boyau.
C'est un instrument de conception renaissance, et donc il était absolument exclu de mettre des boyaux filés sur les graves. Voilà. Même si cette lutherie a perduré jusque le milieu 18e, je souhaitais tenter, en tout cas, même pour Bach, de jouer avec ces grosses cordes en boyau pur. Qui sont formidables. Ça a été une découverte, d'ailleurs, pour moi, parce que je ne connaissais personne qui fasse des cordes d'aussi bonne qualité. Et en cherchant, voilà, j'ai trouvé.
C'est quand même encore un peu inconfortable à jouer. Ou bien vous l'avez depuis quelques mois, cet instrument ?
Je l'ai depuis le mois de janvier. Et depuis le mois de janvier, il a beaucoup évolué, en fait. Mmh. En fait, tout le travail, tous ces mois-là, a consisté à valoriser le potentiel de cet instrument. Qu'au départ, je ne percevais même pas, je dois dire. Il n'avait pas d'âme au départ et j'ai mis une âme tout de même. Parce que jouer Bach avec un instrument sans âme, c'était absolument inconcevable. Et puis, les luthiers, les musicologues sont un petit peu partagés sur le fait qu'il y avait une âme ou pas dans ces instruments.
En la rajoutant, qu'est-ce que ça a changé au son ?
Alors, ça a surtout changé pour les graves. Les graves étaient quasiment impossibles à faire sonner sans âme. Alors que les aigus, oui, avaient une jolie qualité, d'ailleurs, qui n'a pas changé avec la présence de l'âme. Mais il y a plus de projection. Donc c'est quand même beaucoup plus confortable pour moi. Et puis il y aura un violon, il y a tous les autres instruments qui ne sont pas de conception renaissance. Donc il n'était pas question que l'instrument ne puisse pas être mis en valeur.
Et donc on sait que Bach avait, dans un inventaire, on a un instrument, on évoque le nom de Steiner, non, pour Bach, non?
Alors écoutez, oui, mais...
Mais peut-être ravalé, comme on dirait.
Est-ce que c'était un instrument de cette école-là? Enfin, je veux dire...
Qui avait été repris, réaménagé.
Sais rien. Alors, vous devriez plutôt demander à Christian Rau, le luthier.
Parce qu'il y a ces mystères autour aussi de la viola pomposa à Geranana. C'est un instrument comme ça qu'il faut imaginer pour...
Non, la viola pomposa est beaucoup plus petite.
C'est plutôt un grand alto.
Voilà. Exactement. De proportion, c'est plutôt un grand alto. Ici, il s'agit plutôt d'une petite basse de violon. À cinq cordes. On ne peut pas parler de piccolo, parce que le piccolo est quand même plus petit. Mais il a la taille d'un instrument à cinq cordes, tel qu'on pouvait le rencontrer quand même à cette époque, de manière très, très fréquente.
Il est beaucoup plus gros que ces instruments qu'on essaie de jouer d'aspal, là, maintenant ou...
Oui, évidemment, évidemment.
Il faudrait avoir un très long bras, là.
Mais le violoncelle piccolo est tout de même un peu plus grand de diapason que la viola d'aspal, là. La viola d'aspal, enfin, moi, je suis pas très connaisseuse en la matière, mais tout de même, la viola d'aspal, là, permet à des violonistes de jouer de la musique pour instruments graves. Mais le violoncelle piccolo est un instrument de diapason un petit peu plus grand que la viola d'aspal, là. Et je ne pense pas qu'on puisse comparer simplement. Ils existaient, ils ont coexisté. Je pense qu'ils avaient peut-être des fonctions un tout petit peu différentes. Et je ne trouve pas souhaitable de ramener un répertoire à un instrument plutôt qu'à un autre. Je pense que... voilà.
Mais dans les partitions que vous jouez ici, oui, à Gruyère, à Gerenana, vous, elles sont indiquées violoncello piccolo dans la partition. Comment est indiqué le soliste?
Alors, pour les cantates, oui. Et pour la suite, la sixième suite, non. C'est marqué violoncelle à cinq cordes, ce qui est quand même différent. Alors, les quatre cordes do, sol, ré, la sur cet instrument sont effectivement du boyau marocain. Et la corde de mi, je n'ai pas trouvé. Ils n'en font pas. D'ailleurs, la corde de la, c'est le luthier qui a fait l'instrument, qui avait un vieux stock de cordes faites au Maroc et qui m'a donné cette corde de la. Mais pour la corde de mi, non, ça n'a pas été convaincant. Donc, c'est Kürtchner, tout simplement.
Mais au Maroc, ils les font pour d'autres instruments?
Oui, pour leurs instruments traditionnels.
Alors, le téléphone a coupé dans la phrase où, oui, je vous demandais pour les indications qui figurent sur ces partitions que vous jouez.
Oui, alors pour la sixième suite, c'est plutôt mentionné un violoncelle à cinq cordes. Donc je pense qu'il fait référence à ces instruments un petit peu plus petits que, disons, la normale de diapason, mais qui ne sont quand même pas des violoncelles piccolo, qui sont encore plus petits. Donc il y avait quand même toutes sortes d'instruments.
Et quand, je crois que c'est Dimitri Badianov ou, oui, les Koyken jouent, oui, de violoncello da Spalla.
C'est de la viola da Spalla.
C'est ces mêmes partitions que vous allez jouer ici?
Tout à fait. Tout à fait. Exactement les mêmes.
Et donc, mais il le joue alors posé sur la poitrine?
Sur l'épaule, oui.
Et puis, cette sixième suite, alors vous la jouez habituellement sur un violoncelle à cinq cordes. Il y a longtemps que vous pratiquez la cinquième corde.
Pas si longtemps que ça. Ça doit faire un an à peu près. Oui, mais si je jouais la cinquième suite sur mon propre violoncelle, d'ailleurs j'ai un violoncelle piccolo, ça serait sur un violoncelle à cinq cordes. Pas sur un violoncelle à quatre cordes. Je ne crois pas que je serais tentée par cette expérience.
Mais dans les partitions des cantates, c'est aussi clairement nécessaire d'avoir une corde qui est plus aiguë ou plus grave, la cinquième?
Plus aiguë, c'est la corde de mi qui est rajoutée. Alors c'est très curieux parce que dans certaines cantates sont exactement à la tessiture du violoncelle, à quatre cordes, il n'y aurait presque pas besoin de jouer sur un violoncelle piccolo. Je suppose, parce que je l'ai lu, que Bach devait avoir quelqu'un qui jouait magnifiquement du violoncelle piccolo. Il a écrit des airs absolument admirables pour cet instrument et il a peut-être même préféré confier certains airs qui pourraient être joués au violoncelle à cette personne. J'imagine, je ne sais pas.
Et on imagine que lui aussi jouait bien de l'alto ou peut-être
tout
de cet instrument.
On dit quand même qu'il jouait de tous les instruments à cordes. Enfin, peut-être le violonnet, je ne sais rien. En tout cas, le violon, l'alto, et on dit qu'il touchait le violoncelle, ça c'est clair.
Ouais. Est-ce qu'il jouait de la flûte, Alexis Kosenko, Jean-Sébastien Bach?
Non, pas qu'on sache.
Mais on peut se rendre compte en jouant les partitas qu'il n'était pas un virtuose de l'instrument, ou...
Pas forcément. Il écrit plutôt très bien pour l'instrument, mais les codes d'écriture pour la flûte à une clé étaient finalement pas si compliqués que ça à connaître. Et il a fait partie de ces compositeurs qui ont admirablement saisi dès le début le caractère, les possibilités de l'instrument, même si je mentirais en disant qu'il n'emmène pas la flûte parfois vraiment à la limite de ses possibilités.
Alexis Kosenko à la flûte,
auparavant à votre micro, David Mestri, Alexis Kosenko, donc à Gruyère.
Et ici, donc, sur un disque à la tête de son ensemble, lui qui jouait Carl-Philippe Emmanuel Bach de cette façon tout à fait virtuose, ici, le fils de Jean-Sébastien dont il est question toute cette semaine.
On a encore un bon petit moment à passer à Gruyère, dans le cadre de cet atelier de musique ancienne, dont la 10e édition a eu lieu donc en août dernier. Vous nous proposez un extrait, un large extrait d'un concert, d'un des concerts.
De ce concert des anges, l'Angeli de Genève, emmené par Stéphane MacLeod de basse, avec donc ces instruments obligés qui sont la flûte d'Alexis Kosenko et le violoncelle d'Ager Anana. C'était un programme des airs de cantate avec violoncelle piccolo de Jean-Sébastien Bach, et on entendra encore les voix notamment d'Alexandra Lewandowska soprano, celle de Stéphane MacLeod avec son ensemble.
Voilà des extraits de ce concert qu'on doit à Gérard Halla et Blaise Favre. Concert donné par Stéphane MacLeod et son ensemble Liangeli à Gérard au violoncelle. C'était en août dernier lors du festival 10e atelier de musique ancienne de Gruyère. Il sera question dès aujourd'hui de Bach à Lausanne, début du festival, aujourd'hui. Grand merci à vous, David Mestri, de nous avoir emmenés à Gruyère et à Christophe Esseva.